Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir. Donc nous allons pouvoir assister tous ensemble ce soir à une conférence proposée par Madame Clémentine Vidal-Naquet sur le thème des couples dans la Grande Guerre. Cette conférence vous est proposée et organisée dans le cadre des commémorations du centenaire sur la ville de Marly-le-Roi, qui ont associé de nombreux partenaires. Et ce soir en particulier, c'est l'association Lecture et Rencontres qui a organisé cette soirée à laquelle vous allez pouvoir assister. Je tiens à remercier la présence de certains membres du conseil municipal dans la salle ce soir. Je vous souhaite une très bonne conférence et je remercie encore Madame Vidal-Naquet d'être parmi nous ce soir.
Merci. Alors je vais attendre que les chaises, que tout le monde soit installé. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et puis je voulais aussi remercier évidemment l'association Lectures et Rencontres et la bibliothèque Pierre Bourdan de m'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation et merci pour votre accueil. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter une partie de mes recherches qui porte donc sur les couples dans la Grande Guerre et je vous propose d'entrer dans mon sujet à travers deux photographies d'une série de photographies qui a été prise par un soldat mobilisé qui s'appelle Jacques Moreau et qui sont prises, ces deux photographies, aux abords de la gare de l'Est au moment de la mobilisation en août 1914. Et vous allez voir que ces deux photographies, elles nous racontent une séparation. Voici la première photo. Vous voyez que l'homme enlace sa femme et sa fille. Son visage est caché, on a très proche de sa conjointe, on a l'impression qu'il s'apprête à l'embrasser. Et vous distinguez, et je crois que c'est important, à l'arrière-plan, le visage souriant d'une femme. Voici la seconde photographie qui est construite à l'identique et qui est prise quelques secondes tout au plus après la première. Et vous voyez que l'homme s'est effondré, il pleure dans les bras de sa femme, dans la rue, devant sa fille. Et à partir de ces deux photographies, vous m'entendez bien au fond? Oui? Ça va? Il faut que je monte encore? Je baisse? C'est bien. D'accord. À partir de ces deux photographies, je disais, je voudrais juste faire deux remarques introductives. La première remarque, c'est le fait que la Première Guerre mondiale, vous savez, en mobilisant massivement les hommes, eh bien, elle sépare aussi massivement les familles. Et en France seulement, et c'est une estimation basse que je fais, ce sont au moins 5 millions de couples qui vivent comme le couple photographié par Jacques Moreau, la séparation pendant les 4 années de guerre. Et donc, étudier, comme je l'ai fait, la séparation des couples, eh bien, c'est analyser une expérience évidemment éminemment intime, mais aussi largement partagée. Ensuite, et c'est ma seconde remarque, vous voyez que ces deux photographies, mises côte à côte, elles constituent, je crois, une mise en garde pour l'historien qui souhaiterait travailler sur l'intime, ou travailler plus généralement sur les émotions. Parce que rien sur la première image n'indique finalement ce qui se joue et ce que l'on découvre sur la seconde. Et cela est d'ailleurs, à mon avis, certainement lié à ce visage souriant de la femme à l'arrière-plan qui nous trompe d'une certaine façon. À tel point que ces deux photographies semblent presque présenter deux couples différents, alors que c'est le même couple évidemment, un premier qui surmonterait l'épreuve de la séparation et puis un second qui semble au contraire la vivre dans l'abattement. Et donc, on voit bien que suivant la proximité, suivant l'angle de vue, suivant aussi le moment où se pose le regard, ce sont des émotions très différentes qui se laissent entrevoir. Et le contraste de ces deux expressions atteste, je crois, la fugacité des traces émotives, qui a été une des raisons majeures de la méfiance pendant très longtemps des historiens à l'égard des émotions. Alors, ces deux photographies que je vous montre, elles mettent à jour, c'est vrai, je viens de le dire, la fragilité des émotions comme objet d'histoire, mais en même temps, je crois qu'elles nous encouragent, au contraire, à partir sur leurs traces. Et c'est sur ce terrain qui est vous le comprenez, assez glissant finalement, que je me suis engagée en étudiant ce que devenait le lien conjugal brisé par la séparation pendant la guerre. Et donc pour des millions de couples, on l'a compris, la première conséquence de la guerre, c'est la séparation, puisque chacun, alors, expérimente la guerre dans l'absence de l'autre. Alors quelles sont les épreuves rapidement auxquelles les couples doivent faire face ? Je vais ici, en introduction, tracer très rapidement, à grands traits, quelques situations partagées par ces couples séparés. Ils sont, ces couples, tout d'abord, confrontés à des manques. Un manque économique, d'abord, parce que le départ prolongé, souvent, du soutien familial, peut parfois plonger le ménage dans un très grand dénuement. Et puis aussi un manque, évidemment, affectif et un manque sexuel. On sait que l'univers masculin du front, les frustrations rencontrées par les soldats, ont déjà été évoquées par de nombreux historiens. Et la femme, elle est placée dans une situation d'attente continue, et ce sentiment, par ailleurs, est accru, si vous voulez, par les permanences du quotidien. C'est-à-dire que l'ordinaire lui rappelle sans cesse l'absent. La demeure commune, le lit conjugal déserté, la table du repas. Deuxième élément, les couples sont ensuite confrontés, évidemment, à des pertes de repères identitaires. L'homme qui est devenu soldat est certes parti pour la défendre, pour défendre la patrie, et à travers la patrie, sa femme, les femmes restées à l'arrière. Mais on sait aussi que les expériences parfois très humiliantes du combat ont des répercussions fortes sur l'identité virile. Et par ailleurs, la femme, elle doit se créer une nouvelle place au sein du foyer, alors même que le code civil la cantonne encore dans un statut de mineur juridique. Et les couples, enfin, ils sont confrontés, et je crois que c'est l'essentiel ici, ils sont confrontés à une angoisse omniprésente, celle de la mort, c'est-à-dire la mort de soi, évidemment, et la mort de l'autre pour les femmes. Alors j'ai choisi aujourd'hui, à travers l'analyse des correspondances conjugales, d'entrer avec vous dans le quotidien de ces couples séparés par le conflit pour essayer de comprendre quelle forme a pu prendre des relations conjugales presque exclusivement scellées par l'écrit. Et par ailleurs, dans une période très particulière, puisque c'est une période marquée par la violence, l'extrême violence et l'omniprésence de la mort. Et je procéderai ici en deux points. Je voudrais d'abord vous présenter le pacte épistolaire de guerre, qui est très particulier au moment de la guerre. Et ensuite, j'essaierai d'étudier comment se transforme ou pas, d'ailleurs, le lien conjugal pendant la guerre. Et avant de commencer tout à fait, je voudrais apporter une précision sur les sources que j'utilise. En historienne, il faut toujours faire le point, vous savez, sur les sources, mais là, ça me semble extrêmement important parce que je voudrais juste dire que les correspondances sur lesquelles je vais m'appuyer, alors j'en ai lu pour ma thèse 75, qui représentent des milliers et des milliers de lettres, et puis depuis ma thèse, j'en ai lu encore des dizaines et des dizaines, donc là, je ne les compte plus, mais en tout cas, toutes ces correspondances qui me sont parvenues, elles ont été soit publiées, soit retrouvées dans les greniers, il y en a une d'elles même que j'ai retrouvée dans la rue, qui avait été jetée par des descendants et qu'on a retrouvées par miracle, qui ont été aussi déposées dans des fonds d'archives. Toutes ces correspondances, elles émanent de couples qui éprouvaient une forme d'attachement mutuel. En fait, les couples que j'ai croisés dans ma recherche ont tous fait l'expérience de la séparation avec un être pour lequel ils expriment de l'affection pendant le conflit. Ça signifie, et c'est très important, que ces correspondances font en quelque sorte silence sur les conflits qui, on le sait, brisent les couples aussi pendant la guerre, et on pourra en discuter. Mais ces sources-là, ces correspondances, elles permettent à l'inverse quelque chose qui est très difficile de faire en temps de paix, en fait, c'est l'étude de l'expression du lien amoureux pendant la guerre. Alors, pendant la guerre, on sait que des millions de lettres ont été échangées du front et de l'arrière. Et pour vous donner une idée un peu plus précise, on compte par jour, juste pour l'armée française, et donc c'est une moyenne sur la durée de la guerre, 1,8 million de lettres qui vont du front vers l'arrière et 3 à 4 millions de lettres qui vont de l'arrière vers le front par jour, simplement pour l'armée française. On comprend, avec ces chiffres qui semblent inouïs, on comprend que l'écriture de la lettre est pour beaucoup de Français, pour beaucoup de combattants, un acte quotidien. Un acte qui évidemment demande plus ou moins d'efforts selon les milieux sociaux, parce qu'il faut imaginer que pour certains, c'est une habitude d'avant-guerre, que l'on reprend pour beaucoup, mais pour d'autres, c'est une nouveauté totale qui surgit avec le conflit. Sauf que l'école de Jules Ferry a permis, en tout état de cause, que l'écriture même balbutiante, parfois il a fallu que je lise des lettres à voix haute parce que c'était, il fallait déchiffrer quelque chose d'extrêmement mal écrit, mais simplement, l'écriture est possible. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la masse des lettres en circulation dès le début de la guerre. Tout le monde écrit dès le début du conflit. Et donc, ce qu'il faut, je crois, retenir, et ce qui est très important, c'est que les rapports conjugaux passent par l'écrit et n'existe presque que grâce à l'échange de lettres. Or, on sait que, en temps de paix, écrire une lettre, c'est une pratique sociale. C'est un cérémonial qui répond à des gestes, à des codes, à des habitudes convenues. Sauf qu'en temps de guerre, eh bien, ce cérémonial, il prend une dimension très particulière. D'abord parce que l'inscription de la date, premier élément que l'on inscrit sur une lettre, l'inscription de la date n'a rien d'anodin pendant la guerre. Parce que la première fonction de la lettre envoyée par le combattant, c'est d'être gage de vie. L'objet de la lettre, donc, c'est-à-dire avant même qu'on ait lu le contenu de la lettre, eh bien, cet objet délivre un message rassurant. Et à l'inverse, eh bien, son absence est signe absolument immédiat d'inquiétude. Et donc, du côté des femmes, l'attente de la lettre exaspère, si vous voulez, la sensation du danger encouru, et impose, je reprends une formulation d'un soldat mobilisé qui s'appelle Jules Porte, qui dit que l'attente de la lettre impose son terrible point d'interrogation. Impose son terrible point d'interrogation. Et donc c'est pourquoi la date, elle est dotée d'une charge émotionnelle exceptionnelle pendant la guerre. L'agricultrice Marcel Boucher, par exemple, compte les jours qui la séparent de la dernière lettre reçue qui provient de son mari Aristide, mais elle compte aussi très précisément, comme beaucoup d'autres, de quand date son dernier signe de vie. Et elle lui écrit « Triste journée encore aujourd'hui, pas de lettre. Ce serait bien assez d'attendre. Voilà 5 jours que je suis sans lettre et 8 jours sans nouvelles. » Alors deuxième code épistolaire après la date, c'est l'indication du lieu, qui est compromise pendant la guerre par les autorités militaires qui tout simplement l'interdisent pour des raisons stratégiques que l'on comprend assez facilement. Or, l'ignorance du lieu précis où se trouve le conjoint, eh bien, c'est un point de crispation très très grand pour les familles. Émilie Louise exprime très bien cette frustration qui, dans son cas, vous allez l'entendre, devient presque une obsession au moment où son mari est envoyé dans les Dardanelles à l'automne 1915. Et voilà ce qu'elle lui écrit. « Où es-tu maintenant ?» C'est la question qui revient comme un refrain, celle sur laquelle je vivrai désormais. « Quand je saurai où tu es et ce que tu fais, il me semble que la séparation sera plus acceptable. » Et puis quelques jours après, elle a reçu enfin une dépêche de son mari et son soulagement, il semble vraiment être à la mesure de l'angoisse qu'elle a ressentie auparavant et c'est vraiment le fait de savoir précisément où se trouve son mari qui est à l'origine de son apaisement. Et donc elle lui écrit « Je te sais arriver, je sais où tu es. C'est immense, indépendamment du risque de torpille qui est écarté. Savoir où tu es, comme je vais bien dormir. Quelle joie de savoir où tu es. » Et donc, de très nombreux combattants et pistoliers cherchent des manières de déjouer la censure et manœuvrent pour essayer d'informer malgré tout leur conjointe de la zone précise où ils se trouvent. Je vais vous en montrer quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui d'un instituteur, et c'est un détail important, qui s'appelle Marie-Auguste Colomb, et qui construit une énigme en jouant sur la graphie. Voilà ce qu'écrit cet instituteur le 3 mai 1915 à Léontine. « Si j'en juge par le coin où nous sommes, elle a un charme que nous apprécierions mieux ensemble, mais il faudrait que tu viennes me voir, et cela n'est pas possible. » Vous voyez bien que la faute d'orthographe, improbable, impossible pour cet instituteur et la majuscule mal placée doivent en fait faire comprendre à Léontine qu'il est à Vienne-le-Château. Alors un autre exemple, un autre instituteur qui décide, selon ses propres mots, je le cite, de correspondre en blanc, c'est-à-dire qu'il va utiliser de l'encre sympathique et puis sa femme apprend la manière d'opérer pour lire les mots cachés, écrit-elle. Donc voici une lettre datée de juin 1916, alors qu'il est dans la Somme et vous voyez qu'en bas il y a une partie recouverte d'encre et là il faudrait pouvoir éteindre. C'est le moment où on éteint et après on rallume. Parce que je dois vous montrer 2 choses que vous ne verrez pas si ce n'est pas éteint. Alors, voilà la lettre. Et voilà en gros plan ce qu'elle peut lire. Donc on voit que, eh bien, il est Jean Déléage dans la Somme entre Chaulnes et Roy. Autre exemple, on reste dans l'obscurité, on va rester encore dans l'obscurité un tout petit peu, c'est un jeune mobilisé qui s'appelle Stanislas Voirot, et qui, comme beaucoup de mobilisés, envoie de très nombreuses fleurs à sa fiancée, Marthe, et il envoie des fleurs en même temps que ses cartes. Mais il utilise les fleurs pour l'informer de ses déplacements, c'est-à-dire qu'il inscrit sur la tige de la fleur séchée le nom de la localité où il se trouve. Et vous voyez donc ici une pensée. Alors sur le petit papier de l'autre côté, il y a marqué une pensée d'A, d'apostrophe A majuscule et puis trois petits points. Et vous voyez donc ici inscrit juin 1918, Amiens. Et donc à partir de ces fleurs récoltées, Marthe fait un très très bel herbier. Je dois dire que j'ai mis un petit temps en fait à comprendre pourquoi, en fait, parce qu'on voit, on voit que ce qu'on cherche, et moi je ne savais pas qu'il écrivait sur les tiges. Enfin, elle écrit, elle fait un herbier très beau, fleur de guerre. Vous voyez que la guerre continue, 1914, 1915, 16, 17. En fait, Stanislas revient. Hein, si l'herbier s'arrête en 1917, c'est pas qu'il meurt, c'est qu'il n'y avait plus de place dans l'herbier. Voilà une page de l'herbier avec le fameux trèfle à quatre feuilles, si souvent envoyé depuis les tranchées. Ou encore ici, un bouquet offert pour les 20 ans de Marthe. On pourrait en fait presque, si vous voulez, à partir de l'herbier, on pourrait reconstituer le parcours militaire de Stanislas, puisqu'elle sait précisément où il se trouve grâce à ses envois. Et là, je pense qu'on peut... l'importance, je vous ai donné ces exemples, ils sont extrêmement nombreux en fait dans les correspondances. Ce qui est important, c'est de voir que cette importance pour les femmes de l'indication du lieu a été très largement comprise hein, par les soldats. Alors, autre code épistolaire, quand on écrit, on décrit aussi le cadre dans lequel, qui nous entoure hein, lorsqu'on rédige la lettre. Or, les combattants, ils sont contraints de prendre la plume dans des endroits, des situations aussi très peu propices, parfois, bien sûr, à l'écriture de lettres. Et ils le notent. Hein, ils sont dans la tranchée, en plein air, sous la pluie, sans lumière, accroupis dans la terre. Et ils évoquent aussi quelque chose de très présent dans les correspondances, c'est l'univers sonore qui est très caractéristique dans les tranchées, dans les zones de combat, notamment en première ligne. Et l'univers sonore accompagne véritablement les épistoliers dans leurs gestes d'écriture. Roland d'Orgelès, par exemple, écrit « Le canon met la ponctuation à mon mot ». Ou encore plus simplement, Constant M écrit, je le cite, « Au son peu harmonieux des boches ». Pierre Groux, au son des coups de fusil, Louis Fretel, au milieu du ronflement des aéroplanes, etc. etc. Alors pourquoi ces précisions m'intéressent? En fait, par ce biais, que font les soldats? Eh bien, on voit qu'ils n'hésitent pas, finalement, à indiquer leur proximité avec l'ennemi et du coup, à avouer la situation de relatif danger hein, dans laquelle ils se trouvent. Je voudrais aussi, pour continuer sur ce rituel épistolaire particulier du temps de guerre, je voudrais souligner la dimension parfois contraignante de ce rituel qui repose sur un contrat communicatif qui est fondé sur trois exigences, à mon sens. Ces trois exigences essentielles, ce sont la régularité, la réciprocité et la sincérité. Les deux premières exigences, la régularité et la réciprocité, elles concernent à la fois le nombre et la fréquence des lettres envoyées, mais aussi la longueur hein, des lettres rédigées. On va écouter un petit cartonnier parisien qui s'appelle Georges R. et qui s'est confié dans une missive très très longue à sa femme, à une autre page de l'herbier. Voilà, là, une lettre de Georges, écrite donc sur des petits cartons comme ça, pattes de mouche, recto verso. Et après avoir écrit cette longue missive, il enjoint sa femme à faire de même et voilà ce qu'il lui écrit. « J'ai reçu tout à l'heure la carte que tu m'as fait hier en réponse à mes deux lettres. J'espère, ma poupée, que cette carte est un simple aperçu de ce que tu me répondras, car j'ose croire que ma lettre de 5 feuillets mérite comme réponse un peu plus qu'une petite carte. Aussi, j'escompte pour les premiers jours de la semaine prochaine une lettre très longue où tu me commenteras tout ce que j'ai mis dans ma lettre. » Voyez que dans l'interaction épistolaire, en fait, la réciprocité de l'effort fourni pour écrire semble capitale. Et on le voit, le non-respect hein, des tours d'écriture, les trop longs intervalles aussi entre les lettres ou l'insuffisance du contenu, eh bien, ce sont des occasions assez fréquentes en fait dans ces correspondances de remontrance hein, de part et d'autre. Henri Fauconnier d'ailleurs s'élève en septembre 1916 contre cette exacte réciprocité qui dans son cas semble lui être un peu imposée par sa fiancée Madeleine et il lui écrit alors « Diantre mademoiselle, quelles manières sont-ce là ? Êtes-vous résolu à seulement échanger des lettres et à ne jamais donner plus que vous n'aurez reçu? Il me semble, moi, que si vous étiez à la guerre et moi au coin du feu, je vous écrirais sans compter. Alors j'ai évoqué une troisième exigence, qui est l'exigence de sincérité. Alors cette sincérité, elle concerne à la fois le contenu de la relation amoureuse et les détails du quotidien vécu à distance par le combattant et par sa conjointe. Cette promesse de sincérité, échangée de part et d'autre, toujours, hein, elle est très importante parce qu'elle doit permettre, tout d'abord, je crois, de déjouer les inquiétudes. C'est-à-dire que de l'arrière, savoir que les soldats disent le danger encouru, le quotidien traversé ou enduré, ben cela permet, à contrario, de croire les missives rassurantes qui proviennent du front. Et de même, pour les combattants, ben penser que les femmes ne vont pas manquer de donner des nouvelles sur la santé des parents, des enfants, des oncles, des tantes, sur la marche des affaires, eh bien cela permet d'effacer les inquiétudes parfois inutiles lorsque les lettres n'en font pas état. Et donc les conjoints, c'est très fréquent aussi dans les correspondances, veulent s'imposer, on le voit, cette charge de franchise. Alors évidemment, je me suis posé une question, est-ce que ça signifie que les combattants décrivent sans mal la guerre qu'ils traversent, hein, sans en cacher ni la violence ni les dangers? On se doute évidemment bien que non, puisque nombreux sont ceux qui, au contraire, pour rassurer, tentent sans cesse d'atténuer leur expérience des tranchées. Puis il faut penser aussi à la censure, au contrôle postal, qui pèse assez fortement sur la rédaction des lettres, c'est-à-dire que la menace d'une retenue de la lettre qui priverait la destinataire d'un gage de vie, justement, eh bien, c'est très souvent mis en avant par les épistoliers, par les combattants, pour expliquer qu'ils ne peuvent pas tout dire de leur expérience de guerre. Alors ça, c'est un premier élément, et souvent on s'arrête là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'arrête sur le fait que dans ces correspondances, on atténue toujours la violence et la réalité du conflit. Et moi, je voudrais un petit peu insister sur un aspect inverse, qui est le fait que les épistoliers, en fait, ne passent pas entièrement sous silence leur expérience. Et là, je crois qu'il faut bien mesurer que ces correspondances que j'ai étudiées, ces échanges épistolaires, ils se font sur la très très longue durée de la guerre. Et que donc, dans les centaines, parfois les milliers de lettres rédigées au sein d'un même couple, même lorsqu'ils essaient de rassurer, eh bien les combattants, ils sont amenés à un moment à décrire la violence du conflit. Et donc quand on lit ces correspondances dans leur totalité, si on ne se contente pas de piocher par-ci par-là, eh bien on voit que ces lettres, elles sont parsemées en fait de cadavres déchiquetés, de blessures infligées, de villages détruits, et même parfois du désir de tuer. Je vous donne juste deux exemples à ce sujet. Dans des correspondances, je le répète, de combattants qui tentent à tout prix de rassurer leurs femmes. Voilà un premier exemple, c'est un agriculteur qui s'appelle Henri Mallet et qui en juin 1915 écrit à Léa ceci. Le pauvre M, il a été haché par un obus. Il a fallu ramasser les morceaux du corps et les mettre dans un sac pour le faire enterrer dans un cimetière. Donc on peut considérer qu'à partir de juin 1915, Léa sait ce que les obus font au corps. Deuxième exemple, aussi assez touchant, parce que c'est un petit employé d'une usine qui s'appelle Antoine Martin et qui s'évertue vraiment, alors là, à rassurer sa femme, lui assure qu'il rentrera et qu'il reviendra de la guerre parce qu'ils viennent de perdre une petite Laurence âgée de 15 mois qui, selon lui, est gage de son retour et assurera son retour parmi les siens. Et pourtant, voilà ce qu'il écrit à sa femme. Comme la baïonnette est trop longue, on se sert de tout ce que l'on a sous la main. On les assomme à coups de triques, de pelles, de pioches, et parfois, si l'on a un bon couteau, on s'en sert pour larder les plus maigres. Donc, à partir de cette date, sa femme sait la violence des combats au corps à corps avec les Allemands. Pour terminer là sur ce cérémonial épistolaire de guerre, je voudrais dire quand même que pour pouvoir être sincère, puisque ça a l'air d'être si important, pour pouvoir être sincère, pour vouloir déjouer la censure, eh bien encore faut-il avoir quelque chose à se dire. C'est-à-dire qu'ici, l'ennui, la répétition, la monotonie des jours, auxquels en plus s'ajoute l'exigence de régularité, la réciprocité de la correspondance que j'évoquais tout à l'heure, eh bien tout cela a pu paralyser des combattants qui souhaitaient parfois relater leur expérience de guerre. Et donc, on assiste, sur le temps long de la guerre, très souvent on assiste à une forme d'essoufflement de ce pacte épistolaire. Je vous donne juste une formule simple d'un restaurateur qui essaye d'écrire presque tous les jours à sa femme et qui s'interroge « Que te dire chérie ? Mais je ne sais plus car je t'écris bien souvent. » Je me suis souvent demandé qu'est-ce que ce serait si je devais moi écrire tous les jours mes journées et qu'est-ce que j'aurais à raconter de neuf à mes proches, hein, et c'est une question, à mon avis, qu'il faut quand même se poser pour ces temps de la guerre. Et en 1918, Albert Viard lance à sa femme une formule qui, à mon avis, résume assez bien ce pacte épistolaire de guerre. Il lui écrit « À la guerre, quand c'est intéressant, on n'a pas le temps d'écrire, et quand on a le temps d'écrire, on n'a rien à dire. » Alors je voudrais maintenant m'arrêter sur le contenu de ces relations conjugales épistolaires, puisque là il s'agit maintenant de comprendre comment les couples de mes correspondances ont géré dans la guerre leurs relations amoureuses, leurs relations conjugales à distance. Et pour cela, moi je me suis intéressée d'abord à ce qui m'a semblé après coup, pas tout de suite je l'avoue, mais après coup ce qui m'a semblé le plus l'enjeu premier en fait de la correspondance échangée entre ces couples, c'est le règlement des affaires ordinaires. Les lettres sont en effet le lieu d'un échange journalier hein, dans lequel tous les détails, parfois très triviaux de la vie quotidienne, hein, occupent une place absolument centrale. Et on constate que les couples séparés, eh bien, à distance, ils veillent à conserver d'une certaine façon leur rôle respectif au sein du foyer, malgré l'absence, malgré la distance, et malgré le remplacement, on le sait, hein, de l'homme absent par la femme. Et les correspondances, elles témoignent donc de réorganisation conjugale, toujours assez pondérée, en fait. Alors on peut s'arrêter d'abord, par exemple, sur la réorganisation des rapports conjugaux autour du travail, ce qui est évidemment essentiel hein, dans cette France en guerre. Et vous savez que des femmes découvrent pendant la guerre pour certaines un métier, mais qu'en fait, elles sont très très nombreuses à simplement poursuivre une activité qu'elles connaissaient très très bien avant la guerre parce qu'elles l'a partagée avec leur conjoint. Et donc ces femmes, elles sont surtout confrontées à une solitude inédite, à des responsabilités nouvelles. Et cette solitude féminine, je voudrais juste vous la montrer en photographie parce qu'il y a un fond qui m'a semblé extrêmement intéressant, qui est le fond Gabrielle Cabaret, qui était une jeune photographe amateur dans un petit village d'Ardèche et qui a décidé de photographier tous les membres, toutes les familles de son village pendant la guerre pour envoyer aux combattants les photos des proches. Et voilà par exemple les photos qu'elle a prises. Donc là on est dans un petit village d'Ardèche et on voit ici une grande part des familles, femmes seules avec enfants, encore ici. Donc il y a toute une série en fait de femmes où on voit bien cette solitude hein, féminine. Alors une grande part des femmes prend seule en charge les affaires, hein. Et pourtant, malgré ces responsabilités nouvelles, je vous le disais, on constate en fait dans les correspondances que le poids décisionnel du soldat ne s'efface pas du tout avec son absence. Et donc, dans les correspondances, on voit que, eh bien, très nettement, l'homme, de loin, bah, il continue à recommander, ordonner, donner des conseils, alors que les femmes, elles, eh bien, elles continuent à questionner, à demander des conseils et des avis à leur mari mobilisé. Alors là, les exemples abondent, ils émanent de tous les milieux sociaux. Je vous en donne deux exemples. Les lettres, par exemple, du paysan Louis-Gustave Bruno à sa femme Juliette sont traversées de recommandations très précises concernant les travaux des champs, alors même que Juliette gère extrêmement bien ses cultures depuis le premier jour. Et il lui écrit donc « Tâche de faire tes semailles le plus tôt possible. J'ai grand regret de ma vache et je te prie de faire attention. » Et de son côté, Juliette, qui, je vous le dis, depuis le premier jour de la guerre, gère très 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 bien les affaires, et en fait demande parfois, pose des questions illusoires du genre « Est-ce que, combien penses-tu que je vends la vache demain à la foire ?» hein ?» Donc bien sûr, une fois que la lettre est arrivée et qu'elle a reçu la réponse, la vache est vendue depuis 15 jours, eh bien, elle continue cependant, eh bien, de la part de son mari, des directives, après même 2 années de guerre. Un autre exemple, Yvonne Retour, qui elle est une notable de la province bretonne et qui pour la première fois de sa vie entre dans l'usine de tissage de son mari pour faire les comptes en l'absence de son mari Maurice. Mais elle envoie scrupuleusement son travail sur le front pour le soumettre à son conjoint. Donc il reçoit les comptes faits par sa femme pour vérifier quand même que les choses se passent correctement. Alors évidemment, il y a sur la longue durée de la guerre des glissements hein, qui sont visibles et qui s'opèrent. Par exemple, une autre agricultrice qui, elle aussi, gère très très bien ses affaires, Césarine Pachou, c'est une cultivatrice de lin, et elle écrit à son mari Joseph en septembre 1914 « Je fais tout comme je pense bien faire, mais je voudrais que tu me dises ce que tu penses, si mes idées sont bonnes. » Donc là, on est en septembre 1914, c'est une de ses premières lettres. Et puis en 1917, donc après quelques années de guerre, voilà ce qu'écrit cette fois-ci Joseph à Césarine à propos de sa prochaine permission. Et il écrit « J'arriverai peut-être assez tôt pour semer le trèfle rouge et ce que tu voudras me faire faire. C'est à toi que je vais demander conseil, je ferai comme tu voudras. Donc, dans tous les cas évoqués là précédemment, en tout cas, on voit assez bien que la prise en main par les femmes des affaires de leur mari mobilisé ne peut pas vraiment se lire en termes d'abandon ou de prise de pouvoir. Souvent, on me pose cette question. Est-ce qu'il y a une émancipation forte? Est-ce qu'on le sent? On voit que de façon plus complexe, les couples prennent acte de la nouveauté, ils la commentent parfois, tout en conservant, hein, malgré la distance, les rapports de genre définis avant le conflit. Et donc, pour agir dans les affaires, les hommes, ils sont, lorsqu'ils sont mobilisés, ils sont placés, ils sont plongés dans une relative impuissance, et on sait qu'ils sont en plus largement et très efficacement relayés par leurs femmes. Mais il y a toujours cette volonté, hein, de pondérer. Et je vous donne juste deux exemples encore. Ida Blondel, qui est à la tête d'une maison de fourrure parisienne, elle exprime vraiment sa réticence face à ce qu'elle considère, dans son cas, être une inversion des rôles qui est difficilement acceptable. Et donc elle écrit « Quand tu voudras encore de l'argent, je suis à ta disposition ». Bien que ce ne soit pas de mon goût qu'une femme entretienne son mari. Mais vu les circonstances... Et alors, Yvonne Retour, celle qui fait les comptes dans l'usine de tissage de son mari, bien depuis les bureaux de l'usine de tissage, elle écrit à Maurice « Le rôle de la femme est d'être chez elle, c'est son domaine, et je ne croyais pas être si femme. » Donc, son entrée, d'une certaine façon, dans la vie active, lui fait comprendre quel est son souhait, en fait. Donc là, on voit un petit peu se dessiner des choses, peut-être, pour l'après-guerre. Ensuite, il est aussi frappant de remarquer que les femmes accomplissent à distance pour leurs conjoints mobilisés toute une série de tâches qui les replacent dans l'ordinaire d'avant-guerre. Les femmes, par exemple, sont très clairement, dans les correspondances, gardiennes du sacré. Ce sont elles qui massivement sollicitent les prières. Elles sont aussi gardiennes du foyer, de toutes les activités qui lui sont associées, c'est-à-dire qu'elles envoient, on le sait, alors avec les mères aussi, c'est vrai, de très nombreux colis, hein, remplis de nourriture, d'habits chauds, à leurs conjoints. Elles réceptionnent aussi les habits sales qu'elles renvoient ensuite, et elles sont gardiennes des liens familiaux, puisque ce sont elles qui constituent le lien principal entre le combattant et tout le reste de la famille. Et donc leurs lettres quotidiennes, elles sont parsemées toujours, hein, de récits sur la famille, sur les progrès, l'attitude des enfants, les premiers mots, les premiers pas, les affaires des oncles, des tantes, la santé des parents. Et pour faire le lien très concret entre le père et son enfant, parfois qu'on n'a pas vu naître ou qu'on ne connaît que très peu, pour concrétiser ce lien, eh bien, certaines envoient des photos ou encore, ici, comme c'est le cas, des mèches de cheveux. Voici donc une mèche de cheveux d'une petite Geneviève, comme vous le voyez, qui est née en novembre 1914 et qui a été envoyée par Lily à son mari Georges, qui est alors en convalescence dans un hôpital, et elle lui envoie à sa demande cette petite mèche de cheveux 3 jours après la naissance de la petite fille. Cette petite mèche de cheveux fait partie de la correspondance qu'on a retrouvée dans la rue. Gardée pendant 100 ans, cette petite mèche de cheveux était glissée dans un portefeuille au milieu de la correspondance de guerre. Enfin, les femmes, elles sont aussi gardiennes du temps de paix. C'est-à-dire qu'on sait que sur le champ de bataille prime pour les combattants, on le comprend assez facilement, une temporalité de l'instant, notamment en première ligne. Et à cette temporalité de l'instant, eh bien, il faut aussi rajouter une forme d'uniformisation du temps, comme par exemple le confie à sa femme le commandant Henri Bénard, qui lui écrit « Nous ne connaissons plus les dimanches et les jours de fête, tout est nivelé ». Et à l'inverse, eh bien, les femmes, elles ponctuent leurs lettres de dates. Deux dates relatives aux fêtes religieuses, aux fêtes familiales. Elles remémorent aussi toutes les étapes de l'histoire d'amour du couple. Et donc, en ce sens, je crois qu'elles introduisent au front, par correspondance, une temporalité plus longue. Elles donnent, si vous voulez, des cadres temporels aux combattants. Et c'est ce que fait Armandine, qui précise en juillet 1916, dans une lettre à son mari Armand, « N'oublie pas la fête de ton père. Les fêtes, c'est bête, surtout en temps de guerre, mais les vieux aiment bien ça. » Et pour illustrer cette dernière idée de femme gardienne du temps de paix, je voudrais qu'on s'arrête sur ce colis qui est envoyé par une femme allemande, cette fois-ci, à son mari prisonnier pour le Noël 1917. Et on connaît l'importance de la célébration de Noël dans les familles allemandes depuis 1870, mais l'objet est quand même assez incongru, parce qu'il faut penser qu'il offre du dérisoire à un prisonnier de guerre qui souffre pourtant certainement de certaines privations. Alors, il faut, je crois, ici relever à la fois le soin minutieux apporté non seulement à la construction du sapin, mais également à la fabrication d'un colis sur mesure. Et sur le colis, sous l'adresse du destinataire, la femme a inscrit et souligné d'un double trait « à ouvrir le 24 décembre ». Cette précision, évidemment, elle est capitale, hein, parce que sans elle, l'objet perdrait de sa force symbolique. Et l'épouse s'assure ainsi de la simultanéité de la célébration et donc du partage de la fête. Et donc je crois que cette précision n'est pas du tout anecdotique, elle a une valeur performative. Elle permet de fait une réunion familiale ici autour d'un objet caractéristique. Alors finalement, dans les lettres que j'ai lues, on a l'impression que coexiste sans arrêt ce qui subsiste du quotidien d'avant-guerre et ce qui surgit avec l'effroyable nouveauté du conflit. Les couples de mes correspondances, ils semblent en fait sans arrêt vouloir accomplir presque deux objectifs contradictoires. Ils veulent rendre compte de la situation nouvelle dans laquelle chacun se trouve et en même temps, ils veulent préserver à tout prix la saveur des choses banales qui étaient partagées avant la guerre. Alors il me faut maintenant, puisqu'on parle ici de couple dans la guerre, il faut aborder un point capital de ces relations conjugales, c'est-à-dire savoir comment les couples disent l'intime, comment ils l'expriment. Et tout d'abord, il faut noter, je crois, que la lettre, elle est pensée. Alors je me suis posé beaucoup de questions sur ma présence, moi, en tant qu'historienne, en train de lire ces lettres qui ne m'étaient pas du tout destinées, parce que les conjoints pensent les lettres comme un objet, un espace confidentiel, partagé à deux, un espace intime. Alors pourtant, vous savez qu'il y a une pratique qui est très présente dans les familles bourgeoises du XIXe siècle, qui est que la femme lit l'ensemble des lettres reçues au reste de la famille. Parfois, elle recopie même les lettres et elle les envoie aux membres de la famille. Mais il s'agit toujours d'une lecture sélective, c'est-à-dire qu'on évite les passages sentimentaux dans lesquels sont dévoilées trop fortement les émotions, le désir, les émotions intimes. Le couple Boussac, par exemple, mène, lui, une double correspondance. C'est Marie-Joseph Boussac qui a demandé à son mari d'envoyer dans chaque enveloppe deux lettres, une qu'elle va pouvoir lire avec le reste de la famille et une pour elle seule. Et finalement, cette pratique de la lecture de la lettre au reste de la famille, cela met en évidence, en creux, si vous voulez, le geste du secret, de la complicité préservée. Elle permet au couple de sauvegarder un espace confidentiel. C'est ce qu'on ne lit pas, ce qu'on n'écrit pas à l'autre. Et Marie-Joseph Boussac, elle fait elle-même le parallèle d'ailleurs entre les lettres cachées qu'elle reçoit en temps de paix et les jeux amoureux secrets qu'elle partageait avec son mari avant la paix. Et elle lui écrit « Quand vous m'écrivez une petite lettre bien tendre, qui est pour moi toute seule, elle me fait penser quand nous déjeunions ou dînions chez votre mère et que tout en gardant un air innocent, vous me faisiez une petite caresse sous la table. » Et la lettre, voyez, elle est bien pensée par les combattants et par leurs femmes comme un espace privé, à préserver, à placer à l'abri donc des proches indiscrets, du censeur, peut-être de la future historienne, mais là c'était trop tard. Et malgré le risque du contrôle postal, malgré aussi l'autocensure qui accompagne le fait qu'on sait qu'on peut peut-être être lu, eh bien les époux ils dévoilent dans ces lettres nécessairement une part plus ou moins grande, c'est vrai, de leur intimité. Or, il y a un point sur lequel ces couples s'accordent, c'est celui d'une intensification des sentiments. C'est-à-dire que cette intensification, elle serait selon eux directement liée à l'éloignement et aussi au risque de mort pendant la guerre. Par exemple, en décembre 1914, le député Abel Ferry, le neveu de Jules, écrit à sa femme Hélène « Je suis heureux, mon amour, que la guerre te donne complètement à moi » et notre mariage datera du jour de la déclaration de guerre. Autre exemple, un paysan qui s'appelle Paul Pirot et qui s'étonne, lui, en janvier 1918, après donc de longues années de conflit, de ses propres élans passionnés, et il écrit à sa femme Marie « Je ne sais de quoi cela dépend, mais même au temps où nous faisions l'amour, je n'ai jamais été fou d'amour et empli d'autant de désirs comme maintenant. » Alors, on voit bien ici de quelle façon la guerre est une épreuve sentimentale dans le double sens du terme. C'est-à-dire que d'une part, la contrainte de l'éloignement dans la situation de guerre bouscule profondément la relation amoureuse, et donc en ce sens, la distance serait une épreuve douloureuse. Et en même temps, la distance, on le voit, leur fait mieux comprendre, leur fait découvrir, peut-être même ressentir davantage leurs sentiments. Et ici, on pourrait dire que la guerre permet d'éprouver l'attachement. Il faut noter aussi, évidemment, que le passage à l'écriture, en favorisant l'échange, encourage aussi hein, le développement du sentiment amoureux. C'est-à-dire que la lettre, en évoquant sans cesse l'attachement, le désir, elle le provoque. Hein, l'écriture est évidemment agissante, et c'est ce dont témoigne le restaurateur Théodore Loretz qui écrit « Je te fais réception de ta belle carte du 25 courant, je l'ai lue attentivement, et en moi renaît l'amour. » En ce sens, la lettre serait pendant la guerre le lieu hein, de la fabrique des sentiments. Alors, les lettres, elles expriment cette affection renouvelée. C'est le cas aussi de certains envois d'objets. Je pense d'abord aux fleurs qui accompagnent, alors on l'a vu avec tout à l'heure l'herbier, certaines lettres. Vous en voyez ici un autre exemple. Je pense aussi aux feuilles ajourées pour mettre en évidence le prénom de l'être aimé. Là, c'est une page de l'herbier, donc il y a Marthe en haut et là, sa petite sœur Adèle en bas. Je pense bien sûr aux bagues fabriquées sur le front, dont l'aluminium des fusées d'obus. Il s'agit d'une pratique extrêmement répandue pendant le conflit, qui n'est pas d'ailleurs destinée exclusivement aux conjointes. Mais lorsque ces bagues sont destinées aux épouses, ou quand elles sont destinées aux fiancés, elles symbolisent hein, cet engagement renouvelé. Jean Déléage, notre instituteur qui écrivait avec l'encre sympathique, il espère ainsi par exemple que sa femme verra dans sa bague, je le cite, un nouveau gage de leur union. Hein. Je pense aussi plus largement aux bijoux provenant de l'artisanat des tranchées, comme envoyé hein, depuis le front, c'est le cas ici de ce cœur fabriqué par un soldat russe. La lettre, c'est donc un espace où l'on exprime l'affection, et c'est aussi le lieu de l'expression du désir physique. Sauf que la formulation écrite du désir sexuel, c'est une absolue nouveauté pour un très 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 grand nombre d'épistoliers. La correspondance du couple formé par Maurice et Yvonne Retour est sur ce thème, à mon sens, très intéressante. Parce que Maurice et Yvonne, dans leurs lettres, ne dissimulent jamais le désir charnel, mais l'évocation de la sexualité est toujours très euphémisée. C'est-à-dire que le désir de l'autre, il est toujours plus suggéré qu'explicite, il est toujours plus romantique que physique, il est empreint de pudeur. Et pourtant, Yvonne semble peu à peu, dans sa correspondance, admettre le désir qu'elle éprouve pour son mari. Je vais vous lire deux extraits de lettres, un qui date de décembre 14 et un autre qui date de février 1915. Et vous allez voir la progression hein, dans cette lettre, dans ces deux lettres d'Yvonne. Alors en décembre 1914, Yvonne fait état de sa gêne, elle s'étonne d'ailleurs de sa propre audace, mais en même temps elle revendique un droit à dire son désir, et elle écrit à Maurice « Je te désire tant, parfois j'en ai honte. » je te voudrais dans mes bras, que je t'étouffe avec mes plus ardents baisers. Ce n'est pas mal, dit mon cœur chéri, puisque tu es mon petit mari adoré. » Février 1915, deux mois après, elle fait donc un pas de plus et elle lui écrit « Je t'adore et je n'ai plus honte de te dire combien je te désire. Alors je te veux, je te désire, je suis folle de toi et veux que tu me reviennes. » Vous voyez que je vous donne cet exemple pour juste dire qu'au sein même des couples, le dit-cible s'élabore et se construit peu à peu. Et on voit très nettement que les couples, ils échafaudent des modes de communication dans lesquels les seuils de pudeur, ils sont sans cesse réévalués. Alors j'ai dit tout à l'heure que l'expression du désir, c'était pour beaucoup une découverte, et c'est c'est donc une immense difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile que d'écrire, que d'exprimer par écrit, pour la première fois pour beaucoup, le désir physique. Et donc, il faut trouver des moyens de déjouer la pudeur. Alors, certains épistoliers utilisent des sous-entendus, évidemment, ou alors ils donnent, par exemple, aux organes sexuels des surnoms, hein, pour ne pas directement les nommer. Et on a l'impression, d'ailleurs, que ces organes sexuels semblent parfois constituer presque des êtres à part, hein, détachés du corps, qu'on regarde évoluer. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Maurice Chevalier, qui, depuis son camp de prisonnier, écrit à Mistinguette « L'enfant est en forme-forme, et il pourrait être présenté à sa femme actuellement. » Ou alors Armandine, qui évoque, elle, le sexe masculin par la métaphore, et qui écrit à son mari « Il faut qu'à l'époque des belles cerises rouges, tu me sois rendue pour que je puisse déguster ma grosse cerise à mon aise. Nous irons tous deux faire des petites promenades intimes. » Mais surtout, alors, comme recours, eh bien, c'est l'iconographie qui facilite évidemment l'expression du désir. Et donc toutes les cartes postales grivoises sont très fréquemment appropriée dans un sens érotique par les conjoints, et notamment d'ailleurs par ceux pour qui la pratique de l'écriture est une nouveauté, hein, et pour qui le support de l'iconographie est très très précieux. Voici un exemple par exemple. Hop. Voici donc une carte postale qui est extraite de la correspondance échangée entre un vigneron qui s'appelle Victor Defay et sa femme Pauline. Donc vous voyez que l'image délivre un message assez clair, mais ce qui est intéressant, c'est que le mobilisé l'investit et la personnalise pour y inscrire son propre discours. Et il ajoute sur le lit à destination de sa femme « Ce sera bientôt notre tour, heureusement, votre vieux chéri pour toujours, Victor ». Donc là, il a pu dire ce qu'il avait à dire sans l'écrire. L'iconographie l'a bien aidé. Deuxième exemple qui m'a donné beaucoup plus de mal, je dois vous dire, c'est donc une hypothèse que je formule avec vous. Voici la deuxième image, je suis désolée pour la qualité médiocre de la photocopie. Vous voyez que la scène est beaucoup plus sage. Les conjoints sont habillés, ils sont dans une pièce avec en plus de grandes fenêtres qui ne laissent pas, qui n'autorisent pas vraiment un grand degré d'intimité. Et puis la légende n'exprime pas du tout la grivoiserie puisqu'il est inscrit « Au laisse sur mon cœur, repose mon aimé, ta tête abandonnée, alanguie de bonheur. » Bon. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est en fait la lecture qu'en a fait le combattant qui transforme littéralement le sens de l'image puisque de l'autre côté de cette carte postale, c'est une carte postale d'une grande banalité. Ma chérie, je ne me rappelle plus, mais ma chérie, ma santé est bonne, j'espère que toi de même, j'espère te revenir bientôt, ton mari qui t'aime. Signature, banalité. PS, regarde où elle a sa main la salle. Et alors, bon, j'ai regardé. Vous voyez bien que le commentaire de l'épistolier montre, à mon sens, un élément imaginé qui n'apparaît pas hein, sur l'image. Et donc, on peut faire l'hypothèse. C'est une hypothèse parmi d'autres que son propre désir ici lui a fait voir autre chose. Enfin, l'expression du désir dans les correspondances conjugales, elle passe également par la mise en présence du corps de l'autre, hein, malgré la distance. C'est-à-dire que malgré l'éloignement, plaire physiquement au conjoint, eh bien, ça demeure une préoccupation importante. Césarine Pachou, par exemple, notre agricultrice, elle met en garde son mari Joseph, elle n'est pas très commode, Césarine. Elle écrit « J'espère bien que tu laisseras le bouc à la guerre, tu sais que rien ne me déplaît plus. » Et une autre, Henriette Rossi, commente une photo du pauvre Jules qui en plus s'est fait photographier dans la tranchée, ce qui n'a rien d'évident, lui a envoyé la photographie et voilà comment elle réceptionne la photo en question. « Tu as vraiment l'air d'un vrai ermite ou d'un homme des bois. Je te le dis encore, fais couper ta barbe et habille-toi un peu mieux aussi. J'étais loin de m'attendre à te voir si vilain, voire poilu. » Bon, rappelons donc là, ici... que, alors, elles ne sont pas commodes toutes les deux, mais simplement, c'est pour vous donner un peu des exemples qui montrent que la séparation et la longue durée de la guerre ne permettent pas toujours d'assister aux éventuelles transformations physiques hein, de l'autre. D'où l'importance des photographies, évidemment. Et par l'intermédiaire, il s'agit évidemment de voir hein, le visage ou le corps du conjoint. Et plus encore, certains envois permettent de le toucher à distance. Antoine Rebaud, indique par exemple sur plusieurs de ses cartes postales l'endroit où il a posé ses lèvres. Vous voyez en haut à droite un petit carré avec une petite croix et avec marqué « ici ». C'est l'endroit où il a posé ses lèvres. Sa fiancée pourra à son tour poser les siennes. Encore Madeleine Pagès qui invente, il faut bien que je parle d'Apollinaire quand même, qui invente pour Guillaume Apollinaire ce que lui appelle le délicieux baiser friandise qui provoque au poète presque des spasmes de volupté. Puisque, vous savez que Madeleine a envoyé dans une de ses lettres un bonbon de miel, c'est-à-dire qu'elle a croqué le bonbon dans lequel elle a laissé la marque de ses dents. Et donc, Guillaume Apollinaire écrit à Madeleine « Ta chère bouche, ta langue, tes dents, ta salive savoureuse, tout cela est à moi malgré l'absence, ma Madeleine, chère inventrice exquise. » Autre exemple, Jean Roupert qui, lui, pour pouvoir pallier l'absence de sa femme, construit une petite statuette que vous voyez là, et qu'il commente en ces termes dans une lettre à sa femme. Alors c'est une petite statuette comme ça, hein, elle est grande comme ça, et il écrit « Une mignonne petite poupée, haute comme le doigt, toute nue, toute simple, avec ses seins rosés, ses hanches lisses, ses jambes fuselées, ses épaules gracieuses et tout le soleil du sourire sur ses lèvres. Jalousement, je lui ferai un nid en quelques poches secrètes, et lorsque les lèvres de séparation me seraient trop longues, doucement je la caresserai, j'y promènerai mes lèvres avides des tétons jusqu'aux paupières. » J'aurai ainsi avec moi un tout petit bout de réalité pour donner base à mon rêve, toujours plus creux, de toujours rentrer bredouille. Et dernier exemple, un couple très particulier qui est le couple M, formé par Constant et Gabriel, qui est très particulier parce qu'il échange une correspondance érotique très suivie et qu'on a retrouvée, parce que normalement, en fait, ces correspondances certainement existent, mais elles ne sont que très rarement présente dans les fonds d'archives. Et dans cette correspondance érotique, ils échangent poil pubien et liquide séminal, palliatif évident là au manque sexuel. Donc c'est Gabriel qui, face à la frustration exprimée par son époux, propose la première de lui envoyer ce qu'elle nomme ses veuveux, c'est-à-dire ses poils pubiens. Et Constant écrit alors à leur réception: c'est pour moi un trésor, car j'ai un peu de toi-même. Mais il regrette cependant qu'elle ait enveloppé ses veuveux dans du papier d'Arménie qui gâche l'odeur, puisqu'il voulait aussi avoir l'odeur de sa femme. À travers tous ces exemples, on entend évidemment aussi la frustration sexuelle traversée par les soldats mobilisés, par leurs femmes. Donc cette frustration, elle s'exprime dans les lettres, donc, mais aussi dans l'art provenant des tranchées, des combattants, comme voilà, des anciens combattants, dans l'artisanat tranché, comme c'est le cas sur de très nombreuses douilles d'obus ou sur ce bronze allemand, ou plus original, sur ce malicieux briquet à double face. Donc vous voyez là un homme, un poilu, qui regarde par le trou d'une serrure, d'un côté du briquet, et de l'autre, une femme qui se déshabille. Artisanat des tranchées, aussi sur l'imagerie plus ou moins pornographique qui circule sur le front et à l'arrière. Et cette frustration, elle est aussi à l'origine d'angoisse, de peur liée à l'absence de l'autre, peur d'être oublié, comme c'est le cas par exemple de Maurice Chevalier, qui constate que Mistinguette, qui lui écrit de moins en moins, et qui lui écrit assez peu et de moins en moins, en plus antidate ses lettres, c'est-à-dire fait semblant d'avoir écrit plusieurs lettres à la fois parce qu'elle rattrape, il s'en rend compte. Peur aussi d'être trahi, c'est-à-dire peur de l'adultère féminin qui augmente comme raison des divorces dans l'après-guerre, mais aussi peur de la prostitution, d'abord massive, vous savez, à l'arrière du front, puis organisée à partir de 1918 au sein des bordels militaires, alors que les femmes légitimes, elles, sont toujours interdites dans la zone du front. Alors pour terminer sur cette expression de l'intime, je voudrais juste évoquer une difficulté quand même importante, celle de déceler l'écrit et l'éprouver. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de me poser des questions en lisant ces correspondances. Je me disais, les épistoliers croient-ils à ce qu'ils écrivent? Est-ce qu'ils ressentent l'amour qu'ils décrivent? Il est évidemment impossible de l'affirmer, mais je crois qu'on peut néanmoins supposer que l'écrit performatif soit créateur de sentiments. Et que donc, si pendant 4 années, évidemment, ces couples n'écrivent sans doute pas toujours ce qu'ils éprouvent, eh bien peut-être qu'ils éprouvent, en revanche, peu à peu, ce qu'ils écrivent. Pour finir, je voudrais évoquer l'anticipation par les couples de la fin de la guerre et du retour. Parce que de façon massive, pendant le premier conflit mondial, on a imaginé les lendemains de guerre, sans arrêt. Dans les correspondances, les couples, par exemple, imaginent la libération et le retour du soldat, la reprise de la vie familiale dans l'après-guerre. Et ils construisent, par correspondance, de véritables scénarios. Ils mettent en scène très précisément les gestes, les mots, les sentiments du retour. Alors certains, par exemple, pensent que le conflit pourrait s'oublier aussi vite et n'aurait aucune répercussion sur les relations de la vie de couple. D'autres imaginent plus simplement, par exemple, faire connaissance enfin avec leurs enfants. Ou plus simplement et plus courant encore, ils imaginent pouvoir se remettre au travail et pouvoir revenir et reprendre leur place. Avoir aussi, et c'est quelque chose de très présent dans pas mal de correspondances, ils imaginent avoir la chance de vieillir. C'est-à-dire que le vieillissement devient un idéal en temps de guerre. Face à la précarité de l'existence, la chance d'avoir la chance d'avoir un jour 98 ans. C'est le cas d'Armand et d'Armandine qui disent: quand tu auras 98 et moi 99 ans, nous relirons nos correspondances de guerre. Et l'autre élément, évidemment, c'est cette relecture, cet imaginaire de pouvoir un jour relire ensemble ces correspondances échangées pendant la guerre. Hippolyte Bougot, qui est un paysan d'Alsace, l'écrit à sa femme Félicie en novembre 15. Il écrit: c'est la guerre, et là-dedans, pour nous, le principal, c'est le retour. En fait, je crois que cette constance des couples à dire sans arrêt la certitude du retour, je crois que ça permet de mesurer en creux, en fait, la profondeur de l'angoisse. C'est-à-dire que cette obsession du retour, c'est évidemment une obsession de la survie, un refus de l'éventualité de la mort. Et en cela même, je crois qu'elle est signe, au contraire, de sa très très grande présence. Et que le risque de mort, dans ses correspondances, est de fait omniprésent, même dans les silences. Et certains couples, pourtant, ont bien imaginé le non-retour, hein, ont imaginé la mort du soldat. C'est-à-dire que certaines femmes ont entrevu leur solitude, et puis certains hommes ont projeté un après dans lequel ils n'auraient plus aucun rôle à jouer, et ils ont pu, d'une certaine façon, organiser leur départ. Je vais prendre ici l'exemple de mon couple fétiche, c'est un couple qui est important pour moi pour beaucoup de raisons, qui est le couple de Maurice et d'Yvonne Retour. Et ce couple, je vous le montre quand même, dans leur belle correspondance, malgré la formation continuelle de projets communs, ils n'arrêtent pas de penser à l'après, hein, au retour, et bien quand même, de façon épisodique, Maurice et Yvonne formulent l'éventualité de la mort de Maurice. Yvonne évoque, je la cite, son immense chagrin, hein, si son mari devait disparaître. Elle avoue d'ailleurs pleurer à cette seule pensée, et elle lui écrit: « Je ne te cache pas que je souffrirai le martyre et que ma plus grande douleur sera mon devoir de vivre sans toi. » Et puis, de son côté, Maurice affirme en mai 1915, dans une lettre à sa femme, « Être tué à la guerre est une belle mort, puisqu'on peut se préparer. » Et effectivement, dans ce que j'appelle des lettres testaments, mais des lettres testaments qu'il envoie à Yvonne de son vivant, hein, qui ne sont pas destinées à être gardées sur lui, hein, mais qu'il lui adresse, il oriente l'avenir d'Yvonne, il lui donne des pistes très précises à suivre, par exemple pour l'éducation de leur fils, il cherche aussi tous les mots destinés à l'apaiser si elle le perdait, il lui conseille aussi de se remarier s'il mourait, il fait par ailleurs de très importantes recommandations sur la gestion de ses biens. Il lui écrit: « Je n'ai pas assez examiné nos contrats pour savoir si tu restes en possession de tout notre bien. En tout cas, c'est mon désir. Je ne voudrais pas que Michel, c'est leur enfant qui a un an et demi au moment de l'entrée en guerre, je ne voudrais pas que Michel ait la grosse tentation d'une fortune à lui et qu'il puisse en disposer sans ou malgré toi. » Alors Yvonne, lorsqu'elle reçoit ses lettres, ces lettres testament un peu particulières, elle met toujours un petit temps à répondre, puis elle répond. Et elle répond donc à ses dernières volontés, elle s'insurge évidemment contre l'idée de son remariage, mais elle le remercie de sa grande générosité, hein, lorsqu'il s'agit de son héritage. Alors tout comme Maurice et Yvonne, des couples ont parfois ébauché ensemble une organisation matérielle, voire une gestion émotionnelle de la séparation définitive. Alors ont-ils de la sorte apprivoisé le pire ? C'est évidemment difficile de le dire, toujours est-il que c'est bien la soudaineté qui accompagne l'annonce de la disparition de Maurice Retour en septembre 1915. Et 4 jours après l'annonce de la mort de Maurice, Yvonne écrit à son frère: « Tomber de si haut en quelques minutes, est-ce possible ?» Et en 1922, elle va exhumer Maurice, et elle écrit, elle se souvient de cette annonce de la mort de son mari, et elle écrit: « Et à la vie qu'on sent, qu'on vivait quelques minutes avant, il faut dire un adieu brusque, brutal, sans aucune préparation. » Pour conclure, je voudrais faire 3 remarques. Je voudrais juste tout d'abord revenir sur le pacte épistolaire. Les lettres, elles sont, on l'a compris, souvent présentées comme un élément absolument crucial, hein, de la journée. Au front et à l'arrière, et elles sont même présentées comme vitales. C'est-à-dire que Roland d'Angelès, par exemple, affirme: les lettres, cela remplace tout. Le vin rempli de mouches qu'on ne peut boire, la viande tournée, tout ce qui me manque. Et un autre, Émile Blondel, explique à Ida en novembre 14: « Écris-moi souvent, tes lettres me font vivre. » Et donc les lettres, elles sont évidemment des sources d'encouragement, hein, pour les combattants, sources d'encouragement pour leurs femmes, elles les aident littéralement à tenir. Par ailleurs, les lettres, elles donnent aux conjoints l'illusion d'abolir la distance, hein, qui les sépare. Et il y a beaucoup d'épistoliers qui insistent sur cette impression de pouvoir causer, de pouvoir converser, de pouvoir se rapprocher, hein, grâce à l'écrit. Et donc, la lettre transporterait, selon eux, les épistoliers auprès de leur destinataire pour une forme de conversation imaginaire. Et pourtant, évidemment, la nécessité nouvelle d'avoir à correspondre met au contraire en évidence l'absence de l'autre. C'est-à-dire qu'en ce sens, la lettre, elle est en elle-même un très très grand objet de plaisir et de soulagement, mais c'est aussi un immense objet de frustration. Et c'est ce que Vincent Kaufmann appelle, lui, l'équivoque épistolaire. Et c'est ce que remarque plus simplement le paysan Paul Pirot, qui, en avril 1918, écrit ceci à sa femme: « Cela fait plaisir et réconforte au premier abord de se sentir aimé, désiré. Mais après lecture, en réfléchissant, ça vous donne le cafard d'entrevoir le bonheur de près et de ne pouvoir y goûter. » Et donc, évidemment, on correspond pour se rapprocher de l'autre, pour communiquer avec lui, mais peut-être est-ce surtout de son éloignement hein, dont on fait l'expérience. Ma seconde remarque concernera les lendemains de guerre. On a vu là que, lorsqu'ils se sont projetés au lendemain du conflit, de nombreux couples semblent avoir envisagé reconstruire, retrouver une relation qui est souvent une relation en fait idéalisée. Ils ont imaginé, si vous voulez, vivre une relation sans ombrage, que seul le deuil pourrait éventuellement interdire. Et donc, est-ce que ces retours imaginés ne furent que des retours imaginaires ? Pour de très nombreux couples que j'ai cités hein, dans cette correspondance, le deuil est venu briser les espoirs de retrouvailles, comme pour Maurice et Yvonne Retour. Sur les retours à la vie intime et conjugale des autres couples, eh bien, on ne sait parfois rien, ou alors on ne sait que très peu de choses. Tout simplement parce que, évidemment, le retour des hommes met un terme à la correspondance, hein, qui est ici la source principale. Et donc, à une écriture surabondante pendant le conflit, eh bien, succède pour l'historien un silence assourdissant après la guerre. Et donc, on pourrait dire que peut-être que si en temps de guerre, l'intimité conjugale s'imagine et s'écrit, eh bien, en temps de paix, elle se vit, mais elle se tait. Et je voudrais dire enfin... Dernière remarque, dans ma lecture de plusieurs dizaines de correspondances et donc de milliers de lettres échangées entre les soldats mobilisés et leurs femmes, moi j'ai été frappée par l'omniprésence de l'ordinaire au cœur même de cet événement tragique. Et la simultanéité de ces deux dimensions, le tragique et l'ordinaire, a priori antagonique, ça a été pour moi la plus importante découverte. Juste une dernière citation, parce qu'elle me semble évoquer clairement ce que j'essaye de dire là. C'est Germain Cusack qui écrit à sa femme en juillet 15 « Nous avons des morts entre nos tranchées que ni eux ni nous ne pouvons enterrer. Il y en a qui y sont depuis 15 jours. Alors figurez-vous, si nous respirons de bonnes odeurs, c'est presque insupportable. Et sans transition aucune, il y rajoute, un de mes camarades de Saint-Julien-en-Born avait reçu un jambon. Nous avons pu faire une omelette. » Vous voyez que dans les correspondances, ce que je veux dire là, c'est que la violence du front, l'extrême violence du front, coexiste avec des informations qui nous semblent, à nous aujourd'hui, de très faible intensité hein, en comparaison. Et en effet, face au bouleversement des cadres de l'existence dans le conflit, je crois que l'ordinaire est apparu comme un recours qui permet tantôt de résister aux changements, tantôt peut-être de se les approprier. Et j'ai donc, tout au cours de mon travail, essayé de révéler l'ordinaire dans le tragique. Mais il faut peut-être aussi inverser la proposition et voir aussi le tragique qui se loge dans l'ordinaire. Parce que l'échange ordinaire, je crois qu'il révèle aussi une incapacité de dire, une impossibilité de partager de part et d'autre hein, son expérience du conflit. Et donc on pourrait dire peut-être que dans cette recherche systématique, parfois un peu obsessionnelle, hein, du lien banal, de l'ordinaire, du quotidien, se concentre peut-être là hein, la valeur tragique de ces relations conjugales du temps de guerre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Si vous avez des questions, on va faire passer le micro.
Je voudrais vous poser une question sur les couples qui se sont formés pendant la guerre.
Oui.
Les célibataires qui ont été mobilisés en 14, un de mes beaux-pères. Mm-hmm. Et voilà, est-ce qu'il y en a eu beaucoup ? Comment se sont-ils formés ? Comment ont-ils vécu ?
Alors, je peux répondre comme ça, faites passer le micro, comme ça moi je peux porter la voix maintenant. Alors, combien il y en a eu ? Aucune idée. C'est-à-dire que c'est très très difficile, là on ne peut pas savoir du tout quels sont les couples qui, par exemple, se marient après la guerre, se connaissant avant, ou se marient après la guerre et ayant fait connaissance pendant la guerre. Ce que l'on sait, c'est que par contre, les lieux de rencontre, c'est comment ces couples se sont rencontrés en fait. Votre question, c'est comment est-ce qu'on peut se rencontrer alors que les jeunes hommes souvent sont mobilisés. Il y a plusieurs options. Beaucoup de rencontres se sont faites par exemple avec les infirmières. Ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire des blessures plus ou moins graves ont permis aussi des rencontres. Hein. Mais il faut aussi penser à toutes les retours en permission, qui sont quand même assez importantes. Vous savez que les permissions sont mises en place à partir du printemps 1915. Et même si elles sont très irrégulières, très courtes, souvent l'objet de grandes frustrations, elles sont aussi l'occasion de réanimer des liens, parfois préexistants, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas toujours quelqu'un d'absolument nouveau, mais on peut rencontrer dans son village ou tisser des liens nouveaux au moment de ses permissions. Et puis il y a les permissions aussi dans les zones de l'arrière ou en cantonnement, où il y a ici la présence parfois de femmes qui sont présentes dans leur village et qui peuvent aussi rencontrer, héberger parfois des combattants. Donc il y a plusieurs options. C'est vrai, la guerre sépare et permet de nouvelles rencontres. Ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est qu'on a eu très peur pendant la guerre du célibat féminin. Parce qu'on se disait, avec la mort massive des jeunes hommes, que vont devenir les femmes non mariées et que vont devenir les futures les femmes après-guerre. Et c'était une très très grande peur, et c'est resté dans les mémoires d'ailleurs, on me le dit souvent, en me disant, oui, il faut penser à toutes les femmes qui n'ont pas pu se marier, elles étaient extrêmement nombreuses. Alors sachez que ça, il y a des mythes de guerre hein, qui perdurent longtemps après. Effectivement, il y a eu plus de célibataires après la guerre qu'avant la guerre, mais en fait, cette explosion du nombre de célibataires n'a pas du tout eu lieu, parce que les femmes se sont mariées dans des classes d'âge différentes, avec des plus jeunes et des plus âgées. Elles se sont mariées aussi avec des étrangers qu'elles ont rencontrés, alors peut-être en permission, peut-être en cantonnement, et que donc il y a eu des attitudes matrimoniales qui ont fait qu'après la guerre, le taux de célibat qu'on imaginait augmenter jusqu'à 23 pour 1000 est en fait resté à 12, voyez, et qui est resté assez correct, et puis c'est assez vite... voilà. Donc ces histoires de fiancés à vie, il y en a eu évidemment, hein, bien sûr, mais on ne peut pas véritablement penser que c'est une explosion dans l'après-guerre, le célibat féminin. Voilà, je voulais juste rectifier cette petite chose démographique, un petit point démographique. Voilà.
Est-ce qu'il est souvent question de la belle-mère ?
Alors, la belle-mère, ça dépend. En fait, il y a une chose qui est importante, mais là, là, je vais vous parler par rapport à ce que moi, je connais des correspondances que j'ai lues. Je ne peux pas vous dire quelle est la place exactement des belles-mères dans la vie des combattants. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des réorganisations liées d'ailleurs à ce que je disais en introduction sur le problème du départ du soutien économique de la famille. Et donc des réorganisations familiales qui s'opèrent et qui font que des jeunes femmes, parfois avec enfants, parfois juste jeunes mariées, doivent aller s'installer soit chez leurs propres parents, et donc là il y a un changement de statut, soit chez leurs beaux-parents. Et donc, ça c'est des réorganisations en fonction, mais disons que ça change quand même fortement le statut de ces jeunes femmes, jeunes mariées, jeunes mères de famille, qui pour des raisons économiques, pour des raisons de facilité aussi d'organisation familiale, se retrouvent dans des situations plus ou moins conflictuelles. Notre cartonnier parisien, par exemple, celui qui écrit sur les cinq petits feuillets et qui demande, et qui n'est pas du tout commode, hein, il est assez désagréable, comme vous avez pu le remarquer, sa femme doit aller vivre chez ses parents. Donc elle, c'est ses beaux-parents, et ça se passe extrêmement mal, mais extrêmement mal. Donc au point, finalement, il y a un conflit familial qui est créé à cause de la guerre, parce qu'elle doit cohabiter avec ses beaux-parents. Voilà. Donc oui, les beaux-parents passent parfois, pas toujours, pas systématiquement, évidemment. Oui ?
L'inverse de la première question, est-ce qu'il y a eu beaucoup de couples
qui se séparent ? Oui, alors, ouais. Alors là, vous évoquez... une question qui est en fait reliée à la question souvent du divorce. Parce que comment est-ce qu'on peut savoir si beaucoup de couples ont explosé ? On est obligé d'aller voir les chiffres, là encore, de revenir à la démographie. Et alors, je vais du coup déconstruire un second mythe. C'est très bien, vous me donnez l'occasion. Souvent, on a dit, après la guerre, il y a une explosion des divorces. Et c'est incroyable, voilà, la guerre a fracassé les couples. Alors, moi je regarde les chiffres et je me rends compte que le divorce reste une pratique extrêmement marginale après le conflit, c'est-à-dire que d'abord, vous savez que l'autorisation du divorce date de 1884, c'est la loi Naquet, donc c'est assez récent, et que depuis la loi Naquet, donc Vidal-Naquet, on va se dire que c'est pour ça que j'ai fait une thèse sur les couples, mais non, eh bien il y a une augmentation des divorces de façon continue, assez lente mais continue, depuis 1884 jusqu'à l'après-guerre. Qu'est-ce qui se passe juste dans l'après-guerre ? Il y a effectivement une augmentation assez forte des divorces, tout comme il y a une augmentation assez forte des mariages. C'est un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se marier, ou très difficilement, on pourra y revenir, pendant la guerre. On ne peut pas, ou très difficilement, divorcer pendant la guerre. Et donc tous les divorces qui peut-être n'auraient pas eu lieu, ça je ne peux pas vous dire si c'est la guerre qui a provoqué ces divorces ou pas. Toujours est-il que lorsqu'on regarde les chiffres, on voit que jusqu'en 1925, il y a une augmentation réelle des divorces, mais que dès 1925, la situation reprend son cours de progression et qu'en fait, ces divorces entre 1918 et 1925, ils sont liés à un phénomène de rattrapage à cause de la très 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 grande baisse des divorces entre 14 et 18. Exactement le même phénomène pour les mariages. Grande baisse des mariages, il y aurait 800 000 mariages qui n'auraient pas eu lieu, par exemple, on dit ça, entre 14 et 18, qui n'auraient pas pu être conclus. Vous savez qu'on a mis en place une loi qui est en avril 1915, qui est la loi du mariage par procuration, qui permettait aux soldats de se marier à distance. Simplement, ce mariage par procuration n'a pas eu du tout de succès, cette loi n'a pas eu de succès, alors même qu'elle était réclamée par les combattants et par leurs femmes, parce que il y avait toujours le soupçon de nullité du mariage, parce que lorsque la femme se mariait avec l'homme, et si l'homme était mort avant la date du mariage, eh bien le mariage était annulé, et par ailleurs, cela correspond au moment où j'évoquais les permissions, qui interviennent au printemps 15, et on préfère attendre les permissions, donc pas de succès non plus de ce mariage par procuration, et on fait en 1916, je ne me rappelle plus le mois, on met une loi qui est le divorce par procuration, qui a encore moins de succès. Donc on essaye, si vous voulez, de faciliter toutes ces démarches, mais qui sont en fait très difficiles, et donc tout cela est reporté dans l'après-guerre. Donc est-ce que les mariages, est-ce que les couples se sont brisés à cause de la guerre? Là, je peux juste faire des suppositions, et je peux regarder des sources qui sont les sources du divorce, on vient de l'évoquer, je peux aller regarder du côté aussi des sources médicales, et voir que, sans savoir si cela a déconstruit les couples, en tout cas, les retours ont été très certainement, évidemment, pas idylliques comme ils l'imaginaient. Hein, donc là, je pense aux aménorrhées de guerre, je pense à l'impuissance des hommes, aussi au retour de la guerre, je pense aux cauchemars nocturnes, qui ne provoquent pas toujours des séparations, hein, mais qui simplement font que le retour et que l'après-guerre est extrêmement compliqué. Est-ce que ça va jusqu'aux séparations? Difficile de le dire. On a certains cas, on a Guillaume Apollinaire et Madeleine, c'est un peu particulier. On a Dorgelès aussi et sa fiancée qui se séparent. On a quelques cas comme ça, mais on ne peut pas savoir, si vous voulez, si c'est la guerre, Mistinguette et Chevalier. Mistinguette allant voir rapidement ailleurs. Voilà. Et donc sur l'adultère, l'adultère féminin notamment, c'est une immense angoisse, évidemment, du côté des hommes. Et pour revenir aux chiffres, ce qu'on constate, c'est que dans l'après-guerre, vous savez qu'on divorçait pour faute grave. On ne divorçait pas par consentement mutuel. Ça, c'est bien plus tardif. Et donc, une des causes graves, c'est évidemment l'adultère. Et même si c'est l'adultère masculin qui est toujours majoritaire entre adultère masculin et adultère féminin, on voit une progression de l'adultère féminin comme cause grave permettant le divorce. Voilà. Est-ce que c'est lié à un adultère réel dans ces cas de divorce ou supposé? Toujours, c'est là où, si vous voulez, on a des limites, on fait bien sûr on peut ne faire que supposer. Les hommes de mes correspondances, vous remarquerez, n'évoquent jamais non plus la prostitution, ou alors lorsqu'ils l'évoquent, ils disent toujours que les autres vraiment exagèrent d'aller voir les prostituées. Il n'y en a pas un seul qui dit. Voilà. Et donc, de part et d'autre, on est ici dans des relations illusoires et en même temps réelles, enfin, avec toutes les limites que cela suppose. Voilà. Oui, alors ça, c'est... Et non, alors bah, c'est bien parce que c'est la journée où on détruit les mythes. La question de savoir, est-ce qu'il y avait beaucoup d'analphabètes, est-ce que, en fait, véritablement, là, l'école, c'est la première, c'est la génération qui a vécu l'école de Jules Ferry, et qui fait que, même lorsqu'on écrit très mal, c'est-à-dire que, bien sûr, en 14, il y a un très grand nombre de personnes, hommes et femmes, qui n'ont pas écrit depuis... l'école primaire, qui connaissent les rudiments de l'écriture. Mais même lorsqu'on connaît les rudiments de l'écriture, en temps de guerre, on écrit. Donc en fait, ce qui est très particulier, ce qui est pour nous historiens extrêmement précieux, c'est pour la première fois d'avoir une masse d'écriture et de masse de production écrite provenant de tous les milieux sociaux. Ce que vous évoquez là, la pratique de l'écriture pour d'autres, elle existe évidemment, hein, on en a retrouvé, je pense que d'ailleurs le mythe vient de là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que du coup, ah, mais ils ne savaient pas écrire. C'est extrêmement rare. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare, l'illettrisme. Par contre, on peut demander à un camarade d'écrire parce qu'il écrit mieux. Et que donc, on a envie de dire quelque chose d'important, d'officiel, par exemple, de formuler un peu différemment sa pensée. Mais en fait, ils savent écrire. Et on le voit en fait dans les sources. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui, je vous dis, écrivent extrêmement mal, mais écrivent tous les jours. et écrivent avec toujours les mêmes fautes, mais peu importe, ils écrivent. Et j'ai même une femme qui ne savait pas écrire, elle, enfin qui connaissait l'alphabet, mais qui n'avait jamais écrit, qui savait pas écrire. Donc le problème, c'est que là, dans les relations conjugales, si vous voulez, quand vous ne savez ni lire ni écrire, elle faisait lire les lettres de son mari par la sœur de son mari, qui elle-même répondait à sa place. Insupportable comme situation par rapport à tout ce que j'ai raconté. Donc au bout d'un an, elle était capable, le dimanche, d'écrire sa lettre à son mari. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose de très important de se dire que, selon moi, l'écriture, c'est un des premiers gestes d'accommodement à l'état de guerre. Hein, et que la guerre, et que la grande guerre, c'est une guerre de l'écriture. Hein, et qu'on écrit sa guerre, on commente. Il y a une forme d'ethnographie profane qui est exceptionnelle, puisque tout le monde décrit les gestes à tous les milieux sociaux, tous les niveaux, officiers, soldats du rang, petits paysans, etc.
C'est une question de survie, en fait.
L'écriture. C'est une question de survie, l'écriture.
Bien sûr.
Bien sûr. On se sent exister, même pour des gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que ça, c'est lié qu'à des gens qui, pour qui l'écriture est déjà vitale avant. Et ce qui est nouveau, c'est que ça devient vital pour des personnes qui n'avaient jamais écrit, qui avaient juste écrit à l'école. Qui donc, voilà, n'écrivaient pas dans leur quotidien, mais prennent la plume. Oui.
Est-ce que dans vos travaux de recherche, vous avez fait une analogie avec... la prolixité de l'écriture qui pourrait avoir lieu dans des guerres plus récentes qui ne
sont pas écrites. Alors, j'ai pas travaillé sur les guerres plus récentes, mais là, pour un article récent, il a fallu que je me plonge un petit peu dans l'écriture 19e, 20e. C'est très difficile de le faire à la même échelle, si vous voulez. J'ai passé 8 ans, moi, sur les correspondances de couple, donc j'aurais du mal à dire voilà comment ça se passe aujourd'hui. Simplement, moi, mais c'est plus des interrogations que je vais vous transmettre. Déjà, on m'a souvent demandé qu'en est-il pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Je pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait faire les mêmes travaux que les miens si on s'intéressait, si et seulement si, aux prisonniers de guerre. C'est-à-dire, en gros, c'est une autre forme d'écriture massive, mais pas pour les combattants, pour qui, évidemment, là... Et donc, ça transforme légèrement, quand même, le propos. Pour les guerres beaucoup plus récentes, ce qui transforme tout dans les guerres plus récentes, c'est Internet, évidemment. Et donc là, toutes les questions que j'évoquais de problèmes de stratégie militaire... de ne pas pouvoir marquer l'endroit. En fait, moi, j'ai lu alors, c'est pas des rapports, c'est des recommandations militaires actuelles, français, expliquant comment utiliser Facebook, les blogs, tous ces éléments-là qui font qu'on est en contact immédiat, permanent avec les proches, de façon, en fait, stratégiquement très dangereuse. Parce que vous imaginez, si les choses sont interceptées par l'ennemi, dire « nous partons au combat », enfin, voilà. Donc, il y a des recommandations, je ne sais pas de quelle façon elles sont respectées, vécues. Je ne sais pas non plus exactement comment ça transforme le rapport, puisque là, il y a une question d'immédiateté qui transforme les choses. Mais ça, c'est des questions... les sources seront peut-être aujourd'hui plus difficiles à atteindre, mais peut-être pas. Après, je ne sais pas comment on fera, moi, je sais pas comment feront les historiens pour travailler sur mon sujet en 2118. Non, mais c'est des questions que je me pose, en fait. Mais je n'ai pas de réponse, à part cette question de l'immédiateté, du non-décalage, du danger aussi, et des réseaux, en fait, parce que là, c'est des lettres envoyées, on imagine qu'elles peuvent être interceptées par l'ennemi, mais on n'imagine pas tous les réseaux amis. Je ne sais pas, moi, je connais pas bien tous les réseaux sociaux non plus, je ne suis pas une pro du réseau social, mais je vois bien, enfin, Facebook, on a des amis d'amis d'amis qu'on ne connaît pas, et bon, bah, tout ça est très dangereux, effectivement, ouais. En tout cas, pour l'armée. Peut-être pas pour les familles.
Oui. Y a-t-il des fonds qui récupèrent les lettres encore dans les familles ?
Comment ?
Est-ce que des fonds, est-ce qu'il y a des organismes ?
Ah, des organismes, oui.
Qui créent un
alors,
fonds.
Vous savez que... alors, là, il y a eu, en 2013 et 2014, et il va y avoir là maintenant ce qu'on appelle la grande collecte, qui a été un phénomène assez inouï, puisqu'on a demandé, il y a plusieurs, hein, c'est les archives qui sont, et qui en fait demandent aux familles de déposer pour la Grande Guerre, mais là il y a eu une grande collecte pour l'histoire des femmes, il y a une grande collecte, voilà, il y a plusieurs grandes collectes sur des thèmes différents, et là c'est, il y a eu donc cette grande collecte en 2013, et les archives ont été, les archives départementales, la BNF, ont été submergés de documents. Ce qui, moi j'ai beaucoup travaillé sur les archives de la Grande Collecte, parce que je viens de finir un livre sur les archives de la Grande Collecte. Donc j'ai regardé les fonds, pas tous, parce que c'est juste impossible. C'est-à-dire que là, on va aussi changer de façon de travailler, en fait, avec cette Grande Collecte, parce qu'ils ont numérisé. Il y avait plusieurs possibilités. Vous pouviez aller déposer un objet, là, le photographier, le donner, faire des dons aux archives, donc aux archives départementales, ou simplement les confier. Vous pouvez numériser, vous les rendre. Et tout ça est donc mis sur Internet. On a accès de façon Il y a une inflation là, des sources disponibles, très grande. Donc vous pouvez, il va y avoir une autre grande collecte, une dernière, et puis on arrêtera avec la Grande Guerre, là en 2018 ou 2019, 2018 je crois. Et je ne sais plus la mais c'est la dernière phase de la grande collecte. Donc vous irez dans les archives départementales déposer. Alors ça peut être un objet. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir la présence encore aujourd'hui de la Grande Guerre dans les familles. C'est-à-dire, moi, si vous voulez, j'ai travaillé sur la Grande Guerre pour ne pas travailler sur la Seconde. Et donc, je me disais que la Seconde faisait écran, et moi, je voulais être dépaysée par la guerre, enfin, d'une certaine façon. Et j'ai été très surprise de voir à quel point, en fait, la Grande Guerre, malgré cet effet écran de la Seconde Guerre mondiale, qui quand même occupe dans les mémoires une grande place, et bien que la Grande Guerre était quand même très présente, qu'il y avait une filiation comme ça qui venait, et que parce que toutes les familles ont été touchées, hein, en fait, et que tout le monde a une histoire d'un ascendant qui aurait, etc. Et donc, voilà, et je pense qu'il y a encore beaucoup de trésors dans les greniers, et beaucoup de trésors voilà, qu'on essaye de récupérer ou de les sauver, comme cette correspondance que j'avais retrouvée dans la rue. Bon. Oui, monsieur.
Est-ce qu'on a une idée du temps de transmission des lettres ?
Des lettres. Oui, on a une idée.
Dans un sens et
dans... Oui, bien sûr. Les choses changent en fait pendant la guerre, parce que le service postal a été très très surpris de l'inflation du nombre de lettres. C'est-à-dire, même si on avait tout de suite conscience que c'était quelque chose de très important, la communication entre le front et l'arrière, puisque j'ai pas dit ça, c'est important, toute lettre à destination du front ou provenant du front était affranchie. Il y avait pas de, il y avait une franchise militaire gratuite. Donc ça facilite aussi, c'est pour ça qu'il y a un envoi, donc ça c'est immédiat, hein. C'est dès le début, dès la mobilisation, franchise militaire, pas de... voilà. Donc beaucoup de lettres envoyées, au départ ils sont complètement débordés, donc en fait les lettres n'arrivent pas, et ça dure de d'août à décembre. Si vous voulez, quand vous lisez les correspondances qui viennent d'août à décembre, les trois quarts de la correspondance c'est « Est-ce que ta lettre numéro 4 est arrivée depuis 10 jours ?» Puisque moi, ma lettre numéro 5, je l'ai reçue 10 jours après. Enfin, il ne s'agit que des lettres reçues et renvoyées. Et donc là, les lettres, déjà, elles n'arrivent pas toujours. Elles arrivent avec beaucoup de retard. Ça peut être 15 jours après l'envoi, 20 jours. Après, ça se rectifie beaucoup parce qu'on crée le secteur postal qui fait que chaque combattant est relié à un secteur postal où qu'il soit et qui facilite l'accès, le fait qu'on vous trouve, vous voyez. Et donc là, les lettres, elles peuvent mettre, là je ne parle pas des armées d'Orient, je parle de l'armée sur le front, ici, on met 3 jours, 3-4 jours. Les lettres, elles mettent 3-4 jours seulement, c'est-à-dire que c'est assez rapide, alors 3-4 jours plus 3-4 jours, enfin, voilà. Et donc on trouve aussi plein d'astuces, les épuisés trouvent des astuces pour continuer le dialogue illusoire là, que j'évoquais, en numérotant les lettres. Donc ils numérotent pour vérifier que toutes les lettres sont bien arrivées et que le dialogue n'est pas rompu. Donc au bout d'un moment, ils commencent à numéroter. Donc on voit lettre 152, 153, et comme ça, on est sûr qu'on n'en oublie pas. Et quand on répond, alors deux choix, pour que si vous voulez vraiment avoir une réponse, vous pouvez laisser une partie en bas vide. Et donc là, la réponse, vous laissez la place de la réponse. Donc là, il y a le dialogue qui s'installe. Ou alors, ils numérotent en réponse à ta lettre numéro 152. Voilà, sauf que là, ça veut dire, et certains le font, ils recopient leurs lettres dans leur carnet. C'est-à-dire qu'on a aussi des lettres qui ne sont pas... Moi, j'ai parfois pas retrouvé les lettres, mais j'ai retrouvé les brouillons des lettres, ou les, je sais pas si c'était des brouillons ou recopiés après coup, pour savoir aussi qu'est-ce que disait la lettre 152. Parce que si vous en êtes à la lettre 156, voilà. Donc c'est 3-4 jours. Donc c'est assez bien fait. Hein. Oui.
La franchise militaire existait pendant la guerre d'Algérie.
Oui.
C'était gratuit.
Oui. Oui. Tout à fait.
Et les secteurs postaux aussi.
Aussi. Oui.
Je me suis demandé, étant donné l'importance, le nombre extrêmement d'envois de ces lettres, si ce n'était pas, surtout dans le sens peut-être des femmes, une façon d'être active quelque part dans cet inconnu total. Mm-hmm. Et la deuxième chose, si ce n'était pas un acte un peu conjuratoire, mm-hmm. en se disant.
Bien sûr.
Une forme de déni. D'une mort, évidemment, sur laquelle ils étaient sans arrêt d'angoisse, mais une façon, presque un acte magique, en se disant, la lettre, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de ça ?
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est même pas, si vous voulez, c'est souvent dit en tant que tel. C'est-à-dire que les lettres, vous savez, elles sont gardées, par exemple, par les combattants, en disant, ta lettre me protège. Hein, ta lettre me protège. Moi, ce que je pense, cependant, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans ces correspondances. Moi, j'ai trouvé, si vous voulez, bon, je vais être honnête, j'attendais, ben, je le suis depuis le début, hein, mais là, je vais juste vous dire un truc que j'hésite parfois, c'est que Vous voyez, quand j'ai choisi mon sujet de thèse, je me suis dit, je vais travailler sur l'amour pendant la guerre. Je vais donc avoir accès à l'essence de l'humain. Vous voyez, je m'attendais à avoir des explosions d'humanité parce qu'on est dans une situation paroxystique, parce qu'il s'agit d'éléments essentiels et que je pressentais, sans le savoir, que j'allais aller au cœur de quelque chose. Vous voyez ? Et puis j'ai lu. Alors, ma première correspondance, c'était Maurice et Yvonne Retour. Elle était très, 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 très marquante. Donc moi, je m'attendais à ce que toutes les correspondances soit comme Maurice et Yvonne. Et puis j'ai lu. Et puis un jour, j'ai avoué à mon directeur de thèse, enfin mon co-directeur de thèse, qui était Stéphane Audouin-Rousseau, et je lui ai dit, qu'est-ce que je m'ennuie. Ces lettres sont parfois mièvres, parfois répétitives, qu'est-ce que je m'ennuie. Et je m'attendais, vous voyez, j'attendais, en fait, à chaque fois, j'attendais le moment. Alors, j'avais des grands moments d'émotion, hein, des moments où il fallait que j'appelle des gens en leur disant, faut que je te lise la lettre, parce que c'était trop difficile. Mais beaucoup, enfin, dans les milliers, si vous voulez, ça, finalement, c'était assez rare. Hein. Et c'est là où j'ai compris que l'essentiel, c'était finalement dans cet ordinaire-là, et que ce qui était très présent dans cette écriture de la lettre, c'était la contrainte que liée à l'omniprésence de la mort. Et que lorsqu'on pense que... C'est cet ennui avoué qui m'a fait comprendre quelque chose qui, je crois, est important, qui est que cette écriture, j'ai parlé de la contrainte, c'est une contrainte redoublée par l'omniprésence de la mort. Parce que quand on se dit que la lettre qu'on écrit est peut-être la dernière qu'on écrit, ou que celle qu'on adresse à son conjoint est peut-être la dernière qu'il recevra, on ne peut pas tout dire. Et donc on ne peut pas tout dire non plus des insatisfactions, des choses, voyez, plus sombres qui aussi nous font exister. Et que ce qui était en train d'être construit au sein de ces couples, je le dis dans mon livre, je pense que ces correspondances, ce sont des objets de deuil. C'est-à-dire qu'on imagine évidemment pouvoir les relire plus tard, mais on est en train de constituer une stèle. Comme, vous voyez, et sur les épitaphes, on n'écrit pas tout ce qu'on voudrait pouvoir dire sur la personne disparue. Et je crois qu'il y a une retenue qui expliquait mon ennui et qui n'est plus du tout devenu un ennui une fois que je me suis formulé la chose ainsi. Donc je pense que vous avez raison, mais qu'il y a cette ambiguïté-là aussi. Hein, et que je crois qu'il faut imaginer ça, cette contrainte de l'omniprésence de la mort, parce que dès août 14, on sait que la mort est là. Yvonne Retour, donc c'est je vous cite juste le début de sa lettre du 1er août 1914, alors que son mari n'est même pas encore parti, elle lui écrit « Mon adoré Maurice, te reverrai-je. Je te confie à Dieu, sois sans crainte, etc. etc. » Et donc, elle sait, avant même les premières hécatombes, que la mort est là, et tous le savent. Hein, et même si on a dit « Mais eux, ils pensaient que la guerre était courte. » Certes, mais ils savaient qu'ils allaient quand même peut-être mourir. Et voilà.
Et puis dans les lettres, vous ne pouvez pas décrire le carnage tel qu'il était, c'était impossible. Parce que c'était quand même un sujet d'angoisse extrême, en fait.
Oui, mais sauf qu'il y a aussi... Le monsieur dit ils ne peuvent pas décrire les carnages parce que c'est objet d'angoisse. Et moi, je pense que vous avez raison. C'est pour ça que beaucoup de lettres amenuisent la réalité du front. Mais je pense aussi qu'il y a un besoin de consolation qui fait que cela explique la présence aussi. Alors, à demi-mot, il y a un élément que je n'ai pas retrouvé dans les correspondances. L'horreur des combats. Moi, j'étais surprise à quel point les hommes, quand même... décrivait, je vous dis, les corps déchiquetés, il y en a qui dit on marche sur des choses molles, en fait c'est un mort, on s'enfonce dans les ventres, enfin, si vous voulez, c'est des descriptions vraiment dures, mais il y a un élément qui n'est jamais avoué, enfin que je n'ai jamais trouvé, peut-être que dans les correspondances que vous aurez lues, vous en aurez peut-être trouvé, mais jamais je n'ai vu évoquer la peur. Et là, c'est un rapport à l'autre, qui est un rapport, si vous voulez, parce qu'on décrit l'horreur de la guerre, on la décrit vraiment, c'est-à-dire on la décrit à certains moments, pas de façon continue évidemment, mais la peur de mourir, la peur d'être blessé, la peur, voilà, elle est absente. Et donc là, on peut questionner, si vous voulez, justement comme ces lettres sont adressées aux conjointes, l'image de soi, l'image virile qui fait qu'un homme n'a pas à avoir peur, etc., qui quand même perdure malgré toutes ces descriptions. Je ne sais pas. En tout cas, la peur n'est pas là. Alors, je pense qu'il y a un grand ouvrage qui s'appelle La peur et qui montre que...
Il était dopé aussi.
Comment ?
Il était un peu dopé par
l'alcool. Par l'alcool, surtout. Oui.
Je pensais au rôle de la censure aussi.
Oui.
Alors, on a parlé des lieux,
est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être des consignes données ou est-ce que...
En fait, les consignes, elles concernent surtout les endroits. Et en fait, ce qu'on appelle la censure, il faut aussi... c'est le contrôle postal. Quel est l'objectif du contrôle postal ? C'est de prendre la mesure, de prendre la température du moral sur le front et à l'arrière. C'est de voir s'il n'y a pas des insurrections en train de se former. Et ce n'est pas de retenir les lettres. Voilà. Par contre, il y a des interdictions. Les interdictions, c'est de dire où est-ce qu'on est, parce que ça, c'est de dire trop de choses précises sur les opérations en cours, ou à venir, évidemment. Mais si vous voulez, dans les archives du contrôle postal que je suis allée voir, c'est pas ce que j'ai étudié de plus systématique, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'interaction épistolaire. Donc là, c'est des retenues. En fait, les lettres ne sont pas retenues, elles sont recopiées. Et les lettres renvoyées, alors sauf s'il y a vraiment un fait grave, là, mais ça c'est autre chose, ça a des conséquences par ailleurs sur le combattant en question. Mais sinon, les lettres, elles sont griffonnées, c'est-à-dire on coupe un morceau et elles sont caviardées, on renvoie la lettre parce qu'on sait l'importance, si vous voulez, de ce dernier signe, de ce signe de. Donc le contrôle postal prend surtout la température. Voilà. Et donc, les souffrances sont... Mais alors souvent, on montre justement le grand courage, malgré certaines difficultés de la vie quotidienne, enfin, tous ces éléments-là qui sont aussi très clairement évoqués. Voilà.
Est-ce qu'au cours de votre travail, vous avez lu les lettres aux parents, par exemple aux mères, vous parlez de la peur, est-ce que la peur est exprimée dans ces lettres aux...
Ben, dans celles que j'ai pas lu toujours, d'abord elles sont pas toujours conservées, hein, souvent, mais quand il y avait des correspondances familiales, j'ai lu tout ce que je pouvais lire. Parfois la mère est plus préservée que la femme. Hein, la mère, dans les cas que j'ai moi rencontrés, on dit est-ce que tu pourrais ne pas le dire ? Par exemple, des lettres à la sœur, où on dit ne le dis surtout pas à maman, ou alors des lettres à la femme en disant ça, il ne faut pas que mes parents le sachent. Et donc j'ai l'impression que moi, d'après ce que je vois, mais je ne voudrais pas généraliser là, hein, mais dans ce que j'ai lu, j'ai l'impression que les mères sont plus préservées que les femmes, que les épouses. Hein, qui sont. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.